Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
Malpelo, c'est une île plus que chez moi, c'est comme un bébé. Je le souffre. Et donc là, le mot passion vient, parce que le mot passion vient de souffrir. Et la passion, c'est pas toujours très gai. Lorsque l'on voit, oui, il y a de l'engagement, il y a tout ça, mais la passion, quand tu vois dans le dictionnaire ce que ça veut dire, passion, tu vois plus le côté négatif. Et dans ce sens, oui, je suis passionnée de Malpelo parce que j'en souffre.
Sandra Bessoudo, 51 ans, naturaliste et femme politique, engagée pour la protection de la biodiversité marine sur l'île de Malpelo.
Je viens d'un papa français, niçois, d'une maman qui est née en Belgique et qui sont arrivés très jeunes en Colombie. Et mes frères et moi sommes nés ici en Colombie. Et depuis très petite, mon père m'a mis la tête sous l'eau avec un masque et des palmes et un tuba. Et j'ai découvert à l'âge de 4 ans des couleurs, des formes, et bien sûr des poissons merveilleux comme le poisson ange des Caraïbes. Ça a été un coup de foudre pour les animaux marins, en général les animaux, parce que c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue de mes parents qui m'ont toujours donné l'importance de la nature, des animaux. Ensuite, j'ai commencé à faire de la plongée bouteille. Je suis devenue, à l'âge de 19 ans, monitrice de plongée. Et j'ai commencé à travailler en emmenant des gens plonger à gauche et à droite. Et un de ces endroits, et c'était dans le Pacifique colombien. Et on entendait parler les pêcheurs qu'il y avait un endroit avec beaucoup de requins. J'ai réussi à participer en 1987 sur un des premiers voyages de plongeurs, de moniteurs de plongée, que Malpelo, c'est une île au large de la côte colombienne et dans le Pacifique. Et c'est une des îles qui font partie du corridor marin de conservation du Pacifique Est tropical, avec les îles Galápagos de l'Équateur, l'île Cocos du Costa Rica, l'île Coiba du Panama et la Colombie, Malpelo, île océanique et île Gorgona, plus sur le côté continental. Malpelo se trouve à presque 500 km de la côte de la Colombie. Et là, on a découvert les fonds de Malpelo, qu'il y a des formations coralliennes. Et dans le Pacifique colombien, il y a seulement deux endroits ou trois endroits où il y a des coraux. Et un de ces endroits, c'est Malpelo. Donc, il y a des formations coralliennes de coraux durs, de coraux mous. Et associé à ça, il y a énormément de poissons de récif et plus tous les océaniques. Donc, on voit des requins marteaux en banc, des bancs de requins soyeux. On a du requin baleine, on a des requins des Galapagos. On a beaucoup de murènes qui nagent librement. On a des bancs énormes de lujan, des bancs énormes de carang, de mérou. Enfin, c'est une biodiversité et une quantité et en animaux qui est vraiment très impressionnant et très, très beau. Et on a aussi un requin des profondeurs que j'ai eu la chance de voir pour la première fois et en vie en 1998. C'est ce que l'on connaît localement comme le requin monstre. Et c'est un requin des profondeurs qui habite surtout dans les profondeurs et qui remonte très, très peu dans les zones des 60, 30 mètres de fond. Un grand requin de 4 mètres. Et c'est vraiment un requin merveilleux que l'on a aussi. On a commencé à étudier ses mouvements et les profondeurs auxquelles il arrive. Il arrive à plus de 2000 mètres de fond avec des températures de 2,4 degrés. Donc voilà, c'est des espèces incroyables. Et on a pu le voir, on a pu voir plusieurs de ces individus autour de Malpelo. Il était répertorié par la pêche depuis 1810, je crois, mais vivant. Et donc maintenant, bon, on sait que c'est un requin cosmopolite. Il a été aussi observé à Cocos, il a été aussi observé au Galapagos, il a été observé à El Hierro, dans très peu d'eau. Il a été observé au Liban, il a été observé à l'île Europa. Donc voilà, c'est un requin qui est assez cosmopolite, mais sur lequel on sait très, 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 très peu. On appelle le monstre de Malpelo, Odontaspis ferox. Le requin féroce, voilà, Odontaspis ferox. Malpelo, c'est la partie plus élevée, c'est une montagne qui vient depuis les profondeurs. Donc les profondeurs vont jusqu'à 4000 mètres de fond, et la partie la plus haute de cette île est de 300 mètres sur le niveau de la mer. Et c'est une île qui fait 1,2 km carrés. C'est une île où il y a une végétation très primitive, c'est-à-dire des algues, des mousses, quelques graminées, mais c'est surtout une île rocheuse. Sur cette île, il y a la population la plus grande de fous masqués sous la Granti. Il y a, pendant la période de reproduction, plus de 100 000 individus. Et il y a aussi des espèces endémiques. Il y a un crabe endémique qui est très relié au crabe que l'on trouve à l'île de Clipperton, qui est une île qui se trouve aussi dans le Pacifique oriental tropical, mais qui est une île française en face des côtes du Mexique. Et il y a un lézard, un gecko et un grand lézard qui habitent donc sur l'île. Comment elles sont arrivées là-bas? Aucune idée, parce que c'est des espèces terrestres et que l'on sache ne nage pas. Il y a aussi 60 espèces d'oiseaux différentes qui ont été répertoriées. Certains habitent là, la plupart sont migratrices et sont stationnelles. Sur l'île, il y a un phare et tous les mois, il y a le poste militaire où il y a 5 militaires qui font la souveraineté sur l'île. Étant à Malpelo, parce que j'étais monitrice, j'ai commencé à emmener des gens plonger là-bas sur un bateau qui avait 40 places. Il fallait le remplir avec 30 personnes. Et il fallait les trouver à l'époque. Et en allant à Malpelo, j'ai commencé à voir aussi les bateaux de pêche qui étaient ancrés sur le corail, les ponts étaient couverts de requins. Et cela m'a mis en alerte. Et donc j'ai créé un mouvement avec des signatures pour protéger l'île. Les choses dans la vie arrivent comme ça et tu prends les opportunités ou tu ne les prends pas. Et donc je dis cela parce qu'en 1992, je plongeais dans les Caraïbes et tout à coup je tombe à côté du président de l'époque, du président Gaviria. Et donc, je lui dis, président, si vous aimez la plongée, il faut aller à Malpelo. Et deux ans après, en 1994, il m'a demandé de l'accompagner à Malpelo. Nous avons fait deux plongées et j'ai profité pour lui donner toutes les signatures pour que Malpelo devienne une aire marine protégée. Donc, il a laissé, avant de partir, tout le processus pour que cela commence. Et finalement, l'année d'après, en 1995, sur un autre gouvernement, le président Samper a créé l'aire marine protégée, le sanctuaire de faune et de flore, île de Malpelo. Suite après, je continue à aller à Malpelo. On m'a appelé pour faire une conférence à Lisbonne. Ou de travailler sur une expo à Lisbonne qui c'était sur les océans, c'était Expo Lisboa 98. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on m'a chargé de faire des ateliers le long des côtes, Caraïbes, Pacifique, mais aussi l'Amazonie comme une troisième mer. Et à ce moment-là, je suis allée voir le directeur des parcs nationaux pour lui dire comment il pouvait m'aider avec les gens sur place, etc., pour travailler sur les mangroves, sur les coraux, sur enfin, plein de thématiques. Et j'ai profité de cette réunion pour lui demander, bon, et qu'est-ce qui se passe avec Malpelo? Non? Il m'a dit, non, ben, c'est une aire marine protégée, mais on n'a personne pour travailler là-bas, on ne connaît personne pour, ben, pour protéger, pour être ben, sur place. J'ai dit, ben, je me mets à votre disposition. Et donc, je suis devenue la première chef du sanctuaire de Malpelo. Et donc, en ayant déjà, disons qu'une mission est auprès du gouvernement pour protéger Malpelo, on a créé les différents programmes, on a réglementé l'écotourisme de plongée, par exemple. Et il faut dire qu'au début, quand j'arrivais là-bas et je voyageais avec mes collègues plongeurs, et il y en avait beaucoup qui, par exemple, arrivaient avec des grands frigidaires portables et les remplissaient de poissons, de langoustes. Et moi, je me disais, ah non, 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 ça, c'est pas possible. Et donc, bien sûr, on a interdit toutes sortes de pêches, même de cette façon-là. Donc, c'était interdire la pêche non seulement pour les industriels, mais aussi pour les gens qui allaient là-bas. Donc, on a organisé toute cette partie d'écotourisme. On a mis des bouées, des amarres au fond, parce que les parois descendent presque verticalement jusqu'à 4000 mètres de fond. Donc, l'endroit le moins profond, c'est 70 mètres, 80 mètres et pour ces bouées. Donc, il faut faire des maintenances. Et on a mis ces bouées simplement pour que les bateaux ne mettent pas l'ancre sur les fonds et aussi protéger les fonds. La réglementation aussi dit un seul bateau à la fois. Cela fait que les plongeurs qui sont à Malpelo, eh bien, ils se sentent qu'ils découvrent pour la première fois et qu'ils n'ont pas d'autres plongeurs qui leur tombent dessus. Donc, c'est vraiment un endroit merveilleux. On a mis aussi en place les expéditions scientifiques et de suivi de données. Et c'est peut-être une des aires marines protégées qui a le plus d'informations au long des années. C'est-à-dire, on prend des informations depuis l'année 2000 jusqu'à maintenant, où la fondation trouve des ressources financières pour payer au moins une ou deux expéditions par an. Et on invite les scientifiques de différentes organisations de Colombie, par exemple l'INVEMAR, qui est l'Institut de recherche marine de la Colombie, est chargé de toute la partie corail et poissons reliés aux coraux. Il y a une université qui travaille sur les espèces de poissons endémiques. Il y a d'autres qui travaillent sur les oiseaux, d'autres qui font de l'océanographie. Et nous, on est chargé de faire toute la partie de recherche et suivi des requins et des grands pélagiques. C'est-à-dire que l'on a un programme depuis 2006, on tague sur différentes espèces de requins, tortues, mammifères marins, et on fait leur suivi, leur migration dans toute cette zone du Pacifique oriental tropical. Finalement, vu le manque de moyens que le gouvernement avait lorsque j'étais directrice ou chef du parc, pas de moyens pour le personnel, pas de moyens financiers pour rien du tout. Donc, et je me suis vue dans l'obligation de créer la Fondation Malpelo. Cette fondation a été créée en 1999. C'est une fondation sans but lucratif et qui a une convention avec les parcs nationaux de Colombie pour pour appuyer, disons, toute la gestion, tout le plan de gestion de cette aire marine protégée. À savoir que cette île marine protégée est devenue aussi un site de patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, je me suis dit à l'époque, bon, s'il y a si l'UNESCO a donné ce prix de conservation, c'est parce que vraiment Malpelo vaut la peine. Donc, je me suis rendue à l'UNESCO à Paris. J'ai pris un rendez-vous et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Malpelo devienne un site de patrimoine mondial de l'humanité? Ils m'ont dit, ben, c'est le gouvernement qui doit faire la demande. J'ai dit, bon, ben, donnez-moi tous les papiers, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Donc, il a fallu faire un dossier qui m'a pris 5 ans et que j'ai bien profité pour faire aussi ma thèse et de master à l'école pratique de hautes études à Perpignan. Je faisais mes études par correspondance. Et donc, ce document qui a permis au gouvernement de faire la demande et m'a permis aussi pour faire ma thèse. Voilà. Donc, c'est une autre opportunité qui est arrivée comme ça. Une aire marine protégée est un endroit, et comme son nom le dit, qui se protège, qui se conserve, parce que c'est un endroit où bien où il y a de la reproduction de plusieurs espèces et qui cette reproduction après avec les courants va aller alimenter d'autres endroits et sur les côtes. C'est surtout pour réussir à maintenir des écosystèmes et la biodiversité et dans son meilleur état. Donc, on essaye dans les aires marines protégées qu'il y ait un écotourisme avec de bonnes pratiques, qu'il n'y ait pas de contamination, que tout ce que l'on fait là-bas, c'est fait avec beaucoup d'attention. Et bien sûr, généralement, toute extraction est interdite. C'est vraiment pour la conservation, pour la recherche, pour l'éducation. Malpelo a aussi reçu énormément d'autres prix internationaux. C'est aussi une zone sensible, spécialement sensible devant l'Organisation maritime internationale. Ça, c'est un travail que l'on a fait de la main avec la Marine nationale. Ça veut dire que les grands bateaux ne peuvent pas passer tout près de Malpelo pour éviter des problèmes de contamination. On a aussi élargi l'aire marine protégée en 2017. Elle a eu sa troisième extension. Maintenant, c'est une aire marine protégée qui fait 27 000 km². Donc, c'est pas tout petit. Faire la surveillance de la pêche illégale que malheureusement on continue à avoir de la part de nos pays voisins et de la pêche industrielle et internationale. Et nous faisons de très gros efforts pour que l'on puisse avoir de nouvelles technologies qui nous permettent vraiment de protéger notre biodiversité aussi en mer et éviter la pêche illégale. On a travaillé pendant 8 ans pour avoir une loi qui donne des éléments plus forts aux différentes institutions pour lutter donc contre ce problème de la pêche illégale, la pêche non déclarée, qui est bien sûr en train de faire beaucoup de mal à la sécurité alimentaire et surtout des communautés côtières qui dépendent vraiment des ressources de pêche. Dans une de nos expéditions et un de nos voyages de film, j'ai eu l'opportunité de participer sur un Ushuaia Nature avec Nicolas Hulot, qui est venu à Malpelo. Et j'avais entendu parler du Grenelle de l'environnement. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu penses que je peux faire plus ou moins la même chose en Colombie? Il m'a dit, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est en 2008-2009 qu'il est venu, 2008-2007, quelque chose comme ça, quelques années comme ça. Et je me suis mis à monter le pacte pour l'environnement pour les suivantes élections de président. J'ai réussi à le faire signer par tous les candidats à la présidence. Et ce que je voulais, c'était que l'environnement soit transversal à toute une politique. Eh bien, je cherchais pas un poste au gouvernement, ça c'était clair. Mais finalement, le président qui a gagné m'a demandé si je voulais être sa ministre. À quoi c'est difficile de dire tout de suite non, non. Donc j'ai dit oui, sans me rendre compte d'une chose, et c'est que le ministère de l'Environnement à l'époque était lié à l'habitat. Et Sandra Bessudeau d'Habitat ne sait rien du tout. Moi, je ne sais pas construire une maison, je ne sais pas comment ça marche, les histoires des finances pour les trucs, ça, ce n'est pas mon truc. Et je me suis dit, président, si vous me mettez de chef de ça, et ça va très, très, très mal se passer. Et donc, le président a dit, OK, donc on va faire une chose, on va séparer le ministère de l'Environnement, d'accord ? de l'habitat. Donc, il y aura le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Habitat. Et donc, il m'a nommée et haute conseillère du président pour l'environnement, la biodiversité, l'eau et le changement climatique. Donc, j'ai été à côté du président et j'étais en charge d'appuyer la création donc, de ce nouveau ministère et tout seul, où on a mis beaucoup de force aussi, on a créé une direction pour toutes les affaires maritimes et côtières qui n'existaient pas. C'était toujours tout sur terre et sur l'eau, il y avait très peu. Je suis devenue aussi présidente de la Commission colombienne des océans. Normalement, c'est le premier ministre qui a ce charge, mais le premier ministre à l'époque m'a demandé, Sandra, est-ce que tu peux prendre ça sous ton... Ah, j'ai dit, mais bien sûr. Voilà, donc j'ai pris aussi la présidence de la Commission colombienne des océans. Au gouvernement, j'ai fait 4 ans. C'est-à-dire en Colombie, les gouvernements sont de 4 ans. Après, le président a à nouveau été réélu, mais je me suis dit que c'était bon, que j'avais déjà fait mon service militaire, et d'une façon, non? Parce que être dans un gouvernement, quoique, bon, je suis restée 2 ans et comme haute conseillère du président. Après, quand il y a eu la séparation des deux ministères, j'ai vraiment pas voulu être la ministre. Parce que c'est toujours des incendies qu'il faut être en train d'éteindre. Et tu n'as pas vraiment l'opportunité. Et à l'intérieur, je sentais ça. Je n'avais pas vraiment la possibilité de... Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui voilà, qui m'enlevait beaucoup de liberté. Cela me gênait énormément de n'avoir pas de temps pour la famille, de ne pas avoir... de la liberté, de pouvoir bouger un week-end et dire « Ah tiens, ce week-end, j'ai envie de me poser et de faire ci ». Eh bien non, ce n'était pas toujours le cas. Donc, je fais 2 ans comme haute conseillère. Ensuite, quand j'ai voulu ne pas prendre le ministère de l'Environnement, il m'a dit « Non, Sandra, attends, j'ai créé un autre bureau qui s'appelle l'Agence présidentielle de coopération internationale de Colombie. Et comme toi, tu as trouvé tellement d'argent pour les requins que personne n'aime, je suis sûre que tu seras capable de trouver de l'argent pour beaucoup d'autres sujets. » J'ai dit d'accord, ben je fais ça. Et donc, je suis rentrée dans cette agence et on a réussi à faire venir beaucoup plus d'argent de ce qui était prévu, ce qui, bien sûr, a été aussi, comme je le sens, quelque chose d'important. Il y a eu, en plus de l'argent que l'on a donné, absolument tout le territoire de Colombie, pas seulement certains endroits, mais toute la Colombie a reçu de l'aide internationale. Et j'ai pu, dans ce travail-là, connaître beaucoup plus à fond tous les problèmes et beaucoup plus à fond tout le pays. Domaine santé, domaine éducation, domaine infrastructure, domaine bien sûr environnement, qui était toujours très présent dans ma gestion. Donc après, quand ça y est, le premier gouvernement se terminait, j'ai dit « Ok, Sandra, tu repars à ta fondation parce que tu dois mouiller tes ouïes. » Sur toutes les expéditions, on a déjà fait plus de 40 expéditions à Malpelo. Et bien sûr, je crois que sur les 40, sur 38, j'ai été dessus. Pendant la navigation, on fait de l'observation en mer, c'est-à-dire on regarde la faune que l'on peut trouver, les baleines, les dauphins, des tortues en surface, d'autres poissons, des voiliers, parfois on voit. Et on prend les données scientifiques, les coordonnées, la date, l'heure et si on peut, l'espèce, voilà, et le numéro. Et tout ça, après, avec le temps, on le met sur des bases de données. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. On arrive à Malpelo, on se met sur la bouée et les activités commencent. On dort sur le bateau, mais on part sur les différents sites de plongée, de travail, avec des annexes. Généralement, c'est des annexes type Zodiac, voilà. Et on fait 3 plongées par jour et on prend des données. Chacun a son travail, a ses protocoles pour prendre ses données. Et le soir, ben, on arrive, on met tout au propre, voilà, on range les caméras, les batteries, machin, etc. On mange et après on est crevé, et ben on va dormir. Voilà. Et le lendemain, pareil, 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 pareil. Et comme ça dépend le temps de la mission. Généralement, des missions sur place de 7, 8 jours, parfois 10 jours. On a eu des missions d'un mois aussi. Et par exemple, nous, et moi, je récolte des données d'observation. Donc, dans mes plongées, par exemple, je compte le numéro de requins que je vois par espèce. Je compte les tortues, je compte les poissons pélagiques et je compte les poissons d'importance commerciale comme les mérous, par exemple. Les mérous, les lujans, tout ce qui est plus commercial et migratoire. Et toutes ces données, comme je le dis, on le met sur des bases de données et on fait des analyses année par année, combien on en a vu, comment ça change dans les temps. Et par exemple, pour les données des requins-marteaux, on a observé une diminution des observations d'un 60%, ce qui bien sûr est très grave. Et d'ailleurs, c'est ces informations qui permettent aussi au gouvernement et aux différents gouvernements de déclarer les espèces comme menacées. Ces données que l'on prend, c'est pour que le gouvernement, pour que les États puissent prendre des mesures de conservation. Sans données, il est impossible de faire de la gestion. Mon groupe met des balises satellites et acoustiques. On fait des études de connectivité entre les différentes îles, mais aussi avec le continent. On a pu établir, avec ces migrations, on a pu établir les aires de nurserie pour les requins-marteaux. Donc c'est un endroit où maintenant on travaille aussi depuis l'année 2009 pour éduquer, travailler avec les pêcheurs artisanaux, avec les jeunes sur l'importance de ces zones-là, non seulement comme nurserie, mais aussi comme un des endroits les plus riches au monde en biodiversité et dans un développement vers le tourisme de nature et de biodiversité est le meilleur moyen de protéger cet endroit. On prend aussi des échantillons d'ADN, non seulement pour faire des études de population, mais aussi sur les métaux lourds que l'on trouve à l'intérieur sur les requins. On ne tue pas les requins, mais on prend des échantillons et on a pu établir les niveaux très hauts de mercure dans ces espèces, puisque c'est là les espèces qui sont dans la partie la plus haute de la chaîne alimentaire et donc ils accumulent de toutes les autres chaînes, ils accumulent de mercure et donc on voit de très hauts taux de mercure, non seulement dans la chair du requin, mais aussi dans ses ailerons, et donc une alerte pour la santé humaine. Et une façon aussi d'essayer que les gens comprennent que c'est pas très bon de manger du requin et que c'est mieux d'avoir des requins vivants que des requins morts. On voit les diminutions surtout sur les espèces hautement migratoires. C'est-à-dire non seulement parfois ils se font prendre à l'intérieur des aires marines protégées dues à la pêche illégale, mais comme c'est des animaux qui migrent, ils se font capturer par la surexploitation de la pêche industrielle. Non seulement de thon, pour d'autres espèces de requins qui sont aussi en voie de disparition, comme le requin soyeux, mais aussi il y a une mortalité énorme sur d'autres espèces qui migrent.
À 5 heures du matin, des filets de pêche encerclent le bateau et bloquent son hélice. Le coupable, le Queen Elizabeth, est un bateau de pêche colombien. Le capitaine demande de l'aide pour récupérer ses filets cassés par la tempête. Il prend le Maria Patricia pour un pirate comme lui. Le capitaine prétend avoir mis ses filets à l'eau la veille à 18 h hors du parc. Vers 2 heures du matin, en les relevant, le courant l'aurait embarqué malgré lui jusqu'à Malpelo. Sur le pont, c'est un carnage.
C'est des requins-marteaux, c'est les mêmes qu'on trouve, que l'on voit quand on plonge. Ceux-là sont des requins de profondeur, ils remontent la nuit. C'est des requins très timides aussi, c'est des femelles. La plupart d'entre eux, c'est des requins femelles. Et la
vuelta. Le capitaine n'a pas encore compris qu'il a pêché la directrice du parc.
Normalement, normalement, je devrais confisquer la pêche. Mais qu'est-ce que je vais faire avec la pêche? Où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je dois la jeter dans l'eau? C'est des gens pauvres qui vivent de la pêche. Donc, est-ce que c'est du gâchis, jeter les requins et les animaux dans l'eau?
On ne va pas remonter les poissons un par un quand même. Écoutez, nous attendons l'armée.
Les requins sont très importants pour la santé des écosystèmes et la santé des océans. Il faut savoir que les requins sont ce qui aide à éviter les épidémies sous l'eau. Ils se nourrissent des plus faibles, ils se nourrissent des malades, certains se nourrissent des morts, et c'est comme ça qu'ils évitent donc, qu'il y ait des problèmes de santé dans les écosystèmes marins. Sans requins, il y a une prolifération de ces proies qui vont se nourrir, qui vont augmenter et qui vont se nourrir donc des autres larves, d'autres poissons qui sont aussi très importantes. Et c'est comme ça qu'il y a un déséquilibre dans toute la chaîne alimentaire d'un écosystème. Donc, un endroit sans requins n'est pas un endroit qui est totalement en bonne santé. On a besoin de tous, depuis le plancton jusqu'aux requins, pour que nos océans soient en bonne santé. J'ai eu la chance de pouvoir plonger avec beaucoup d'espèces de requins. Et à l'époque, je me disais, ah, donc ils ne s'approchent pas trop. Comme la vie change maintenant, je les veux, c'est sur moi. Finalement, plonger avec des requins, ce n'est pas un problème. C'est vraiment des créatures merveilleuses. Les requins ne sont pas ce que l'on a voulu nous mettre dans la tête comme des monstres sous-marins. Non, c'est vraiment des créatures merveilleuses, des créatures très importantes et il faut les protéger. Et ils sont en déclin dû à l'augmentation de la commercialisation et l'exportation de ces ailerons pour faire une soupe de requin qui n'a aucun goût, que c'est simplement une texture et on est en train de massacrer les requins de nos océans. Seulement pour les ailerons, mais aussi pour le cartilage, pour faire des crèmes de beauté, du maquillage, que je trouve triste de pouvoir perdre une biodiversité pour quelque chose qui n'est pas possible et de continuer. Donc il est temps que les gens comprennent que l'on doit prendre conscience que même si on ne plonge pas, que même si on habite dans la montagne, eh bien, on doit faire attention à notre environnement, que les rivières sont importantes parce qu'elles versent, elles se versent aussi sur les océans, que la contamination des rivières, que la contamination des eaux affecte aussi la santé de nos océans et qu'il faut vraiment être conscient de qu'est-ce qu'on utilise et qui provient de la mer. C'est-à-dire, moi, je me nie à utiliser des crèmes de beauté ou de pharmacie qui contiennent du cartilage de requin. Je ne mange pas des espèces menacées. C'est-à-dire, je prends vraiment conscience et de ce que moi, comme individu, je dois faire envers les suivantes générations qui vont nous succéder. Un des problèmes, malheureusement, vient du secteur pêche industriel qui est en train de faire des manifestations et mettre les pêcheurs artisanaux contre nous parce qu'on a fait un arrêté pour interdire la pêche du requin et la commercialisation, l'exportation des produits de requin en Colombie. Bien sûr, ça, pour les industriels qui capturent et qui commercialisent les requins sous le prétexte de pêche incidentelle, c'est pas ce qui va permettre aux océans de se récupérer. Donc, je pense qu'il est le moment de réfléchir et vraiment si les ressources qui sont sous l'eau aujourd'hui, par exemple en Colombie ou d'ailleurs partout, ici on ne mange plus de cerfs, ils ne mangent plus des singes. On ne mange plus des oiseaux, on ne mange plus parce qu'il n'y en a plus. Voilà, et on le laisse pour des communautés indiennes autochtones qui, eux, savent gérer leur territoire, etc. Mais on ne peut pas alimenter le pays, mais en plus exporter pour nourrir avec des ressources qui ne sont pas renouvelables le monde entier. Voilà, donc je pense qu'il est très important que l'on choisisse bien de quoi on se nourrit, à savoir que de plus en plus aussi, et nos océans sont contaminés dû aux microplastiques et à d'autres substances toxiques pour l'organisme, et qu'il est vraiment temps que l'on prenne conscience que l'on est tous sur le même bateau. Bien sûr que j'ai des pressions, et bien sûr que je reçois des menaces, et on met des trucs sur Internet, que je suis en train de tuer les gens de faim, et que... Les gens qui travaillent avec moi, les pêcheurs artisanaux qui travaillent avec moi, les pêcheurs de subsistance qui travaillent avec moi se rendent bien compte du problème. Et je connais déjà des endroits, non seulement en Colombie, mais aussi des endroits dans le monde où les communautés côtières sont les plus pauvres dues à la destruction de leur milieu où ils habitent autour. Donc, s'il y a encore des petits endroits, des enclos qui sont en bonne santé, eh ben, il faut éviter de commettre les mêmes erreurs qui ont été commises dans d'autres endroits, parce que ça ne va emmener qu'à la misère. Et je le vois. Il ne faut pas faire des études pour voir ça. Ça se voit. Tu mets la tête sous l'eau dans certains endroits et il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont pas à manger. Donc, est-ce qu'on veut continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut vraiment que l'on travaille pour éviter cette destruction? Parce que une fois c'est détruit, ça va être beaucoup plus cher de le remettre en place, si est-ce que c'est possible. Parfois c'est plus possible. Dans un pays comme la Colombie où ils tuent beaucoup les leaders environnementaux. J'ai déjà eu des amis qui ont été tués. Je ne me sens plus aussi libre, aussi tranquille. Et voilà, donc au moment où on devient une figure publique, entre guillemets, c'est la seule chose qui m'embête un peu. Maintenant, ben, je ne sais pas comment les choses peuvent se passer. J'ai une de mes amies qui travaille avec moi, elle s'est fait assassiner il y a 2 mois. Il y a 15 jours, un autre guide que l'on a formé s'est fait assassiner. Voilà. Ici, malheureusement, toute cette violence vient du fait de la drogue, des narcotrafiquants et le contrôle du territoire pour pouvoir sortir de la drogue. Et donc, des personnes qui veulent, qui promouvoient l'écotourisme et... Le plus de présence de l'État dans ces endroits qui sont éloignés, où parfois l'État n'est pas présent et donc les méchants profitent, ou qu'ils ont tué un des leaders de la drogue, et ben après il y a des représailles, je sais pas. Donc il y a un peu, tout est un peu mélangé, mais c'est clair que l'histoire des ailerons de requin peut être aussi très liée au blanchiment d'argent. Et quand on est des personnes qui travaillent pour la conservation, tout ce que l'on fait, il faut toujours le faire sous le respect, bien sûr, et avec l'éthique, et comprendre aussi, et se mettre sur l'autre côté. Mais on ne peut pas se mentir. Moi, je ne peux pas me mentir et fermer les yeux et dire « Ah non, oui, d'accord. Alors oui, faites les manifestations, tout ça va changer. » Non, ça ne va pas changer. Donc, c'est à tous vraiment de faire quelque chose si l'on veut vraiment à conscience et protéger la biodiversité, protéger la sécurité alimentaire. Je comprends les difficultés des communautés côtières. Je comprends leur situation qui n'est pas toujours la plus facile. Il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas les choses les plus basiques. Ne sont pas là. Donc, lorsque tu commences à avoir une relation avec les communautés, bien sûr, tout ça a un autre aspect qu'il faut aussi travailler. Que voilà, je prends, je sais que les gens, je suis la voix en Colombie pour les requins, donc tout le monde, c'est moi, bien sûr, c'est moi la tête, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là et qui ont vu les données qui existent et qui ont vu ce qui est en train de se passer et qui ont dit finalement, oui, il faut prendre des décisions. La vie, c'est ma vie. Je vois pas ma vie sans la mer. C'est ma vie. Si j'ai pas la mer, je meurs.
Lors d'une récente expédition scientifique, Sandra a découvert au large de l'île de Malpelo des monts sous-marins abritant de nouveaux écosystèmes. Ces monts, qui se trouvent par 130 mètres de fond, sont de véritables oasis pour les requins migrateurs, leur permettant de se nourrir, se reproduire et de se faire nettoyer de leurs parasites. Sandra ne cesse d'œuvrer à la préservation de cette biodiversité à l'équilibre fragile. Retrouvez le portrait de Sandra sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, commandant de la Marine nationale, embarquée sur le brise-glace, l'Astrolabe.